Depuis 2001, L'Envolée, c'est une émission et un journal pour en finir avec toutes les prisons, faites par d'anciens prisonniers et prisonnières, et des proches pour relayer la parole des enfermés. L'abonnement au journal est gratuit pour les prisonniers et les prisonnières qui en font la demande. L'émission de radio est diffusée le vendredi soir de 19h à 20h30 sur FPP 106.3 en région parisienne ou sur rfpp.net et disponible ensuite sur toutes les plateformes de podcast. L'épidémie de coronavirus a de lourdes conséquences en prison. C'est pourquoi, face à la gravité de la situation, nous avons décidé de produire un bulletin d'information quotidien de 15 minutes que vous pouvez écouter chaque soir de la semaine à 19h sur les ondes de FPP et sur l'envolée.net, en plus de l'émission du vendredi qui est maintenue. Nous demandons à toutes les radios locales de diffuser largement ce bulletin. Il est plus que jamais nécessaire de ne pas laisser les prisonniers et les prisonnières seuls face à l'arbitraire de l'administration et de faire entendre leur voix. Nous relayerons les actions collectives et individuelles dont vous nous informerez, ainsi que des témoignages directs sur la situation à l'intérieur. Tenez-nous au courant par tous les moyens à votre disposition. Nous diffuserons les messages vocaux et les textos de prisonniers et de prisonnières que vous nous enverrez. Nous lirons également les messages que les proches privés de parloir nous demanderont de passer. Notre numéro de téléphone, 07 52 40 22 48. Pour écrire, Radio FPP, L'Envolée, 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris. Ou encore à l'envolée.net et sur Instagram, Twitter, Facebook et Snapchat.
Dans une putain de cellule au premier étage, je travaille en centrale pour tous mes petits braquages. À 4h du matin, je pionçais dans mon lit. Soudain, la sirène gueule et quelques poussins crient. Y'a du partout dans la tour. Y'a du partout dans la tour. Y'a du partout dans la tour. Café les mecs, ça va saigner. Pas de commencé à l'aile gauche de la tour. Se mettent à saccager les pions. J'ai dit allez les mecs, on se paye une petite fête. Fait que j'arrive les lardus avec des mitraillettes. Et y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Café les mecs, ça va saigner.
Tout à l'heure, tu parlais de la peine de mort. C'est bientôt dimanche, là, le 9, c'est le 30e anniversaire de l'abolition de la peine de mort. Qu'en penses-tu, quoi? L'évolution de la prison aujourd'hui
Eh bien, regarde, il y a 10 ans, c'était les 20 ans. Hein, et pour les 20 ans, nous, on existait déjà. On a eu un vrac de courriers et des prisonniers qui sont organisés dans différentes, surtout les centrales. Parce que là, ben, forcément, c'est les longues peines, ça concerne surtout ça, elles sont dans les centrales, et qu'on fabriquait des textes, des affiches, qu'on même sorti des vidéos, puisqu'il y avait le communiqué clandestin de la centrale d'Arles, tu te souviens, et avec des idées d'intervention, tout ça pour dénoncer cette grande fumisterie là, d'anniversaire de la soi-disant abolition de la peine de mort, alors qu'on sait très très bien que la peine de mort n'a jamais été abolie. Qu'on meurt aujourd'hui plus que jamais entre les murs, qu'on meurt à l'extérieur puisque les flics ils te shootent dans le dos pour un vol de scooter et que c'est il y a juste là, ils ont juste changé de façon de tuer, c'est tout. Toi ce matin j'étais à Nanterre, je vais en parler ce soir à l'émission, et ben il y a un jeune de 23 ans qui est mort au mitard lundi et ils essayent de maquiller ça sous un suicide. Le mec, il a un hématome comme ça sur le front, il a les marques au poignet, il n'a pas une marque de strangulation, on voit ce qui s'est passé. Et ça, c'est monnaie courante, on le sait, toi, il y a un tas de familles qui le savent.
Il y a un mort tous les 3 jours.
Hein. Et il y a un mort tous les 3 jours, ce qu'ils appellent suicide.
Ah non, mais...
S'il n'y a pas de suicide, il y a que des morts suspectes. Il y a que des morts suspectes et c'est au moins une non-assistance à personne en danger. T'arrives vivant dans la prison. Normalement, ils sont responsables de toi, de toute façon, t'es complètement entre leurs mains. Donc, ils doivent s'occuper et de ta santé, qu'elle soit physique, psychologique, tout ça, et te faire sortir, on va dire, dans le même état que l'état dans lequel t'es rentré. Penses-tu, tu le sais, ils n'en ont rien à foutre, tu t'es occupé toi-même de cas là, comme ça. Des fois, ça marche quand c'est un petit peu appuyé par l'extérieur. Mais s'il n'y a rien,
c'est l'abandon total.
C'est l'abandon total, les mecs ils crèvent au placard. Ils crèvent sous des peines de 20, 30, etc. Machin. Si t'es malade, alors là t'es perdu de chez perdu, sauf exception évidemment. Mais elles sont très très rares. Et voilà, un mort tous les 3 jours, ça c'est les suicides. Moi j'aime, on n'aime pas dire
non,
suicide.
Non, hein, pas voilà. Suicide, c'est la prison qui tue.
C'est la prison qui tue. Mais à ça, faut encore, t'en ajoutes encore d'autres. T'ajoutes tous les gens qui sortent, qui meurent en sortant de prison. Parce qu'ils savent, voilà, ils sont complètement perdus. Quand t'as fait 30 ans de placard, tu sors de là. T'es perdu et tu te tues à l'extérieur. T'es pas compté comme quelqu'un qui est mort à l'intérieur. Pourtant, c'est kiff-kiff bourri.
Salut à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute de la quotidienne de l'Envolée qui dure depuis le début du confinement, donc depuis la fermeture des parloirs. On est lundi 11 mai, et même si ça déconfine dehors, pour beaucoup de familles et de proches de prisonniers et de prisonnières, et donc aussi pour les prisonniers et les prisonnières, c'est pas si simple pour enfin voir ses proches, et la situation est différente dans chaque prison. En tout cas, on sait que les enfants et les anciens pourront pas voir leurs proches, et aussi que dans certaines tôles, les parloirs ne commencent même pas cette semaine. Bref, on continue encore un peu les quotidiennes avant de reprendre le rythme habituel d'une émission par semaine, au moins en région parisienne sur FPP, a.k.a. La Voix des Sans-Voix au 106.3, mais aussi un peu partout en France, donc comme sur les 17 radios qui nous ont rediffusées jusqu'ici et les 5 web radios. Vous venez d'entendre Olive, l'un des fondateurs de l'émission et du journal L'Envolée, qui nous a quittés il y a peu, le 28 mars. Et donc cet extrait date de 2011, dans une interview qui a été faite par Laurent Jacquat et qui résonne particulièrement aujourd'hui, en cette période de coronavirus et de confinement qui est en train de se terminer. On ne le dira jamais assez, la prison tue. Aujourd'hui, on va commencer un petit tour du monde des prisons, en commençant par la Colombie. Mais avant ça, je voulais faire un appel à toutes les personnes qui auraient des infos de l'intérieur ou qui seraient à l'intérieur et qui auraient la possibilité de communiquer. N'oubliez pas, on a un numéro de téléphone, il y a tous les réseaux. Contactez-nous par toutes les manières possibles. Il y a eu une énorme inondation provoquée par des prisonniers, donc au quartier d'isolement de Bapaume. Et on aimerait avoir des infos de l'intérieur. Plein de force à vous. Racontez-nous ce qui s'est passé. Il faut faire entendre votre voix. Alex, c'est à toi.
Ouais, donc on voulait revenir un petit peu là sur des révoltes et la répression qui ont eu lieu dans des prisons à Bogota en Colombie. Ça se passe fin mars, début avril. D'abord, le 23 mars, il y a une grosse révolte à la prison de La Madelo. Grosse répression avec plus de 23 morts et des dizaines de blessés et une grève de la faim qui se lance avec une grosse lutte à la prison de Picota, toujours à Bogota. Et donc on va vous lire le communiqué qui est sorti le 15 avril par les prisonniers de la prison de Picota, et après on va laisser la parole à une copine proche d'un prisonnier là-bas. Depuis longtemps, les conditions inhumaines et indignes dans lesquelles nous, les prisonniers, vivons sont bien connues. Celles-ci sont le produit de l'abandon intentionnel des différents gouvernements. Nous savons tous que les prisons en Colombie ne sont pas en mesure de faire face à une pandémie. La situation actuelle est donc étouffante. À l'heure actuelle, dans le bâtiment où nous sommes, il y a des foyers de varicelle, de rayons et de tuberculose. Les personnes qui sont atteintes de ces maladies n'ont pas reçu les traitements médicaux adéquats. Qui plus est, actuellement, il n'y a aucun médecin qui travaille de manière permanente dans la structure dans laquelle nous sommes. Le risque de contagion du virus, comme il en a déjà été tristement démontré dans d'autres prisons, est imminent. Le résultat ne peut être que catastrophique. Dans les conditions actuelles, une tragédie carcérale est inéluctable. Nous, les prisonniers et prisonnières, faisons partie de la société, nous sommes l'une de ses expressions. En tant que citoyennes et citoyennes soumises de manière particulière au pouvoir de l'État, nous faisons une constatation frappante. L'État décide de gérer la surpopulation des prisons par la mort des prisonniers. Quel soit le résultat du coronavirus ou d'un massacre, l'État développe ouvertement une politique de nettoyage social. L'action de l'État est donc criminelle. Avant tout, nous recevons des balles. Elles arrivent avant que les soins médicaux et les solutions humanitaires et juridiques nous arrivent. Le président a déclaré l'état d'urgence, une mesure qui est animée par une seule préoccupation, sauver les capitaux des plus grands patrons. La vie des citoyens est reléguée à l'oubli total. Nous exigeons au gouvernement national le respect de nos droits fondamentaux, des mesures humanitaires pour sauver nos vies, la substitution des peines de prison par des assignations à résidence, apporter des solutions à l'état de choses inconstitutionnelles déclarées par le tribunal constitutionnel colombien depuis 1998, une véritable décision de libération à des fins humanitaires. Aujourd'hui, 15 avril 2020, le gouvernement colombien a publié un arrêté pour la libération de certains et certaines prisonnières. Cet arrêté est une plaisanterie de très mauvais goût pour les personnes privées de liberté. Cette mesure ne résout en rien la situation de surpopulation qui existe dans toutes les prisons du pays. Il y en a certaines avec une surpopulation de plus de 100% et ne constitue donc pas une véritable solution aux très graves problèmes sanitaires déjà existants dans les prisons et aux risques concrets produits par la pandémie du Covid-19. Dans ce contexte et pour toutes les raisons évoquées, à partir d'aujourd'hui, nous rentrons dans une protestation pacifique mais active. Nous nous déclarons en grève de la faim indéfinie, non à la peine capitale des prisonniers et prisonnières en Colombie. Défendons notre droit à la vie.
Après l'assassinat des 23 personnes par des policiers colombiens et le 23 mars, la situation et des crises humanitaires et sanitaires dans les prisons colombiennes ne fait que s'empirer. En fait, depuis ce moment-là, et déjà il y avait une panique installée qui au moins avait commencé à s'installer dans toutes les prisons du pays du fait que la pandémie était en train d'arriver en Colombie un peu partout dans le monde, et aussi comme un peu partout dans le monde, les prisonniers et les prisonnières ont commencé à avoir des craintes très réelles et concrètes par rapport à leur propre vie et celle de leur famille. Et en fait, quelques jours après, on a appris en fait qu'il y avait une personne, un homme de plus de 60 ans, qui était dans une prison et qui a été libéré parce qu'il a purgé la totalité de sa peine et qui est mort quelques jours, mais vraiment quelques jours après sa libération. Et en fait, il a été, sa mort a été due à cause du coronavirus. Cette personne, elle a été hospitalisée quand elle était encore en prison. Et il a été en contact avec d'autres prisonniers et avec des gardiens. Et en fait, quelques jours après sa mort, on a aussi appris du fait qu'il y avait un autre prisonnier qui avait été en contact avec lui et qui a été hospitalisé. Après, on sait que dans la prison où cet homme s'est trouvé, que c'est la prison de Villavicencio, une ville colombienne, il y a vraiment beaucoup de cas qui ont été testés positifs. Or, les chiffres n'ont pas été révélés par le gouvernement colombien. Par contre, ce que le gouvernement a fait et qui a été aussi dénoncé par la suite, c'est qu'en fait, il a décidé délibérément de transférer 4 prisonniers à d'autres prisons en Colombie. 2 prisonniers qui sont arrivés dans une prison, dans un bâtiment d'haute sécurité à Bogota et les Rompicota, et 2 autres hommes qui ont été transférés à Florencia Caqueta, une autre ville de la Colombie. Bien sûr, ces transferts n'ont pas été faits avec des mesures d'hygiène ou avec des mesures sanitaires, disons, normales dans les cas du virus, enfin, dans ce contexte. Et on sait aussi qu'à leur arrivée, à l'arrivée de ces 4 hommes aux nouvelles prisons, et ils n'étaient pas isolés, ils ont été en contact avec des gardiens de ces prisons auxquelles ils ont été transférés. Et ils ont été bien sûr en contact avec d'autres prisonniers. Et pour l'instant, l'État colombien n'a pas fait des tests aux prisonniers et qui sont dans ces prisons. Et ils ont décidé par la suite d'isoler ces personnes, ces 4 personnes. Mais il faut dire très clairement que dans ce contexte, de manière qui n'est pas du tout étonnant, et connaissant bien sûr l'action criminelle systématique de la part de l'État colombien, ce que l'État il fait avec l'isolation des personnes pour lesquelles on a des soupçons et qu'ils puissent peut-être avoir le coronavirus, c'est pas une isolation pour essayer justement d'éviter la contagion massive dans les prisons ou pour essayer de prendre soin de ces personnes qui pourraient tomber malades. Mais vraiment, ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'isoler les gens pour les punir. Et donc, justement, après la tuerie de fin de mars, enfin, des dizaines de personnes des différentes prisons de la Colombie ont été transférées aussi dans d'autres prisons, sans savoir si dans ces prisons ou si les personnes elles-mêmes peut-être étaient atteintes de coronavirus. Et en fait, ces personnes, on l'a su par la suite, ont été transférées à d'autres prisons parce que l'État colombien et les autorités carcérales ont dit qu'elles étaient et les personnes qui étaient à l'origine des mobilisations, justement des protestations qui ont eu lieu pour demander une libération massive, pour prévenir une contagion massive et sans contrôle dans les prisons. Et donc, en fait, vraiment, ce qu'on trouve aujourd'hui, c'est qu'il y a une très mauvaise gestion sanitaire, mais aussi qu'il y a vraiment une action criminelle de la part de l'État colombien qui cherche à propager les virus dans les prisons colombiennes sans le moindre respect ni par la vie des prisonniers et ni par la vie de leur famille, même si à ce moment, les visites sont interdites. Et en Colombie, ce qui est vrai aussi, c'est qu'en empêchant les personnes de sortir des prisons, cela implique aussi le fait qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de familles qui se retrouvent aujourd'hui sans aucune ressource pour en manger, bien sûr, parce qu'il y a le confinement comme ici en France. Et donc, du coup, il y a des familles entières dans des situations d'extrême précarité et de pauvreté qui n'arrivent pas à sortir pour trouver des ressources pour en manger, pour en acheter des choses et des premières nécessités. Et donc, du coup, la libération de ces personnes pourrait justement déjà protéger la vie des prisonniers et prisonnières en Colombie, mais aussi de leurs familles. Mais ce n'est pas du tout le cas. Et justement, juste pour finir, il faut dire que de toute façon, l'accès aux droits de santé dans les prisons en Colombie est juste nul. Ça n'existe pas. Les personnes ne peuvent pas vraiment avoir accès à la santé dans les prisons en Colombie. Cela est le cas depuis longtemps. Cela est le cas et c'est le cas connu par l'État colombien du fait que ça a été déclaré par les tribunaux constitutionnels de la Colombie depuis 1998. Et jusqu'à aujourd'hui, aucune solution n'a pas été apportée par l'État, ni par rapport à l'accès aux soins et à la santé des prisonniers et des prisonnières, et pas non plus par rapport à la surpopulation qui existe dans toutes les prisons colombiennes et qui atteint au niveau national plus de 50%. Et pour certaines prisons qui atteint plus de 100% de surpopulation dans certains centres carcérales.
On arrive à la fin de ce Flash Info et avant de se retrouver demain pour la suite du tour du monde des prisons, mais aussi pour des infos de l'intérieur, c'est l'heure des coucous. Alors, tout d'abord, une grande pensée aux prisonniers du bâtiment C du centre de rétention de l'île Lesquin, donc de la prison pour étrangers de Lille. On sait que vous êtes en grève de la faim depuis maintenant 5 jours, c'est énorme, plein de force à vous et la lutte elle va payer. On tient aussi à saluer Seb, force à toi, Derka, crève la tôle, à Chris, accroche-toi, et aussi un fraternel salut à Sabri, plein de force à toi, de la part de Alex, et un grand bonjour de la part de Gaël, à Franck, à Fleury et à Khaled. Enfin, une pensée à Halim et aussi plein de force, de courage et de détermination à tous les enfermés de France, à tous les révoltés qui se battent enfermés entre quinze murs. Et surtout, surtout, n'oubliez pas, il n'y a pas d'arrangement.
Jour J, demain, peu de chance pour l'issue, j'espère. Mais ceux qui sont dupes se laissent faire. À chaque coin de l'hexagone, il faut qu'ils entendent ça. Ce qu'on a en tête, on n'est pas si con que ça. L'avenir, on le voit comme ci, comme ça. On fait des projets, ouais. Car le succès, ça vient aussi comme ça. Mais Dieu seul sait ce qui nous attend. Et à chaque fois qu'on baisse la tête, ça fait un point en plus pour Satan. Et on s'embrouille pour des histoires à deux francs. La vie, c'est différent, y a pas de coup franc. Personne siffle quand tu tombes à terre. Les gens te matent de haut, indifférent si t'es souffrant. Demain, c'est autrement. Et si t'es locataire, fais gaffe aux clés de ton appartement. Fais gaffe aussi à ton comportement. La loi n'excuse qu'aux riches et elle se fie à ton accoutrement.
11, 11, un jour tout.
Aujourd'hui on est le
11, 11, un jour tout.
Aujourd'hui on est le
11
janvier de l'an 2000.
Le 11,
demain c'est le 12, ça tombe pile. Comme une équipe de foot où la moitié de 22 v'là les flics. Elle frappe à ta porte et elle change ta vie. La justice, sa mère et son père aussi. Ses collègues et ses compères aussi. Je vois pas d'issue ici. Et ceux qui jugent n'ont pas les mêmes soucis. Ici, la tentation au quotidien. C'est vrai que personne t'oublie, mais personne te retient. Et j'aimerais tant que les miens se retiennent, que nos causes soutiennent, que l'avenir nous appartienne. Et puisqu'on sait que la vie est une chienne, faut pas qu'on couche avec, voir une fille bien, se marier avec. Malheureusement, on vit avec ce qu'on a dû, et ils baissent la jeunesse. Lui disent morale égale ridicule, lui donnent un matricule, un pactage, un numéro de cellule. Sabotage. Aujourd'hui on est le
11, 11, un jour tout.
Aujourd'hui on est le
11.
Yeah.